1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Bah ouais, ça va bien et toi?
Ouais, bah écoute, ça va. Finalement, on va la faire cette émission.
Bah ouais, il fallait.
Il fallait?
Ouais.
T'étais bon. Plus convaincu que moi, mais donc...
C'était important qu'on la fasse, je crois.
Peut-être. Je trancherai après, on va la faire et puis je te dirai si c'était important. Donc on fait une émission... autour du décès de Jean-Marie Le Pen.
Ouais, parce que quand même.
Ouais?
Ouais.
Ok. Pourquoi t'avais envie d'en parler?
Parce que c'était un personnage qui a marqué notre époque et que c'était... Il y a un truc, comment dire, à sa mort, en fait, il y a eu des fêtes qui ont été organisées.
Ouais.
Et pour moi, c'est la deuxième personne dans un monde démocratique dont on fête le décès. Il y a eu Margaret Thatcher aussi.
Ah, il y a eu Margaret Thatcher.
Ouais.
Donc en France, c'est la première fois.
Les gens, Ding Dong, the witch is dead.
Ok.
et Jean-Marie Le Pen. C'était un mec qui a marqué son époque et qui n'est pas dans le bon sens. Et,
oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et il a fait beaucoup de mal à nous, aux Français. Et je crois que c'était important de rappeler, en fait, qui c'était. Pourquoi il était détestable et pourquoi le Rassemblement National, c'est toujours le Front National fondé par Jean-Marie Le Pen.
Okay,
il y a toujours son empreinte quelque part.
D'accord, vu comme ça, on va s'y employer. Je te suis.
On va peut-être d'abord rappeler quel était le personnage,
ouais.
Hein, avec ses, comme dirait François Bayrou, ses polémiques.
C'est en direct à la radio que Jean-Marie Le Pen prononce une phrase qui lui sera reprochée toute sa vie.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Condamné, le leader du FN persiste pourtant à plusieurs reprises, comme ici devant le Parlement européen.
Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence.
6 ans plus tard, c'est la foi de trop.
Je ne change pas d'avis, j'ai une opinion. Oui, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Marine Le Pen, en pleine opération de dédiabolisation du FN, ne supporte pas cette nouvelle provocation et fait exclure son père du parti. Lui croyait bien au contraire que ses coups d'éclat renforçaient son camp. Un Front National gentil, clamait-il, n'intéresse personne. Jean-Marie Le Pen est moqué et attaqué. Michel Durafour, ministre de la fonction publique de l'époque, fut ainsi la victime d'un calembour douteux, mais resté célèbre.
Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu.
Jean-Marie Le Pen vise aussi sans distinction homosexuels, roms, juifs ou étrangers.
Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même... capacité, ni le même niveau d'évolution historique.
Encore une fois, Jean-Marie Le Pen est condamné. Il balaye pourtant toute accusation de racisme, à sa manière.
Mon personnel est noir, le cuisinier est noir, ma déléguée à l'outre-mer est noire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être raciste? Il faut se marier avec un noir, de préférence homosexuel et sidaïque peut-être.
Extrême dans ses propos, comme dans ses actes. Régulièrement, le patron du FN se jette dans la mêlée, comme ce jour-là, quand venu soutenir sa fille Marie-Caroline, candidate aux législatives, il bouscule violemment son opposante socialiste, Annette Paul-Vasbergeal.
T'as compris, on en a marre!
Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? PD !
Ah, ça m'a rajeuni.
Pour ces violences en réunion, Jean-Marie Le Pen écope de 3 mois de prison avec sursis et d'1 an d'inéligibilité. En tout, avec 21 condamnations, Jean-Marie Le Pen affiche le casier judiciaire le plus étoffé du monde politique français. Mais le fondateur du FN n'a jamais regretté un seul de ses dérapages, contrôlés ou non, et il ne s'est jamais excusé.
Ben voilà, qui était Jean-Marie Le Pen, qui a fondé le Front National.
Ouais, c'est vrai que ce caractère vraiment outrancier qui était très mis en avant chez lui, enfin ce côté provocateur. Alors c'est pas qu'on l'a oublié, mais je pense que enfin nous on l'a pas oublié parce que particulièrement dans les milieux, on l'a vécu dans les milieux militants gays des années 80-90, c'était vraiment le personnage exécrable qu'il fallait à tout prix convaincre, le personnage et les idées qu'il portait, malheureusement.
Mais ouais, aujourd'hui, les jeunes gens aujourd'hui ne savent pas forcément qui il était.
C'est important de le rappeler pour
ça. Et en fait, il a trempé dans tout ce qu'il y a de plus noir, de plus boueux, de plus horrible depuis la Seconde Guerre mondiale. On est d'accord, tout le plus sordide, il a fait. Mmh. Il a fondé le Front National en 1972 avec M. Bousquet, qui était un ancien Waffen-SS. Ouais. Mmh. Et avant, il avait monté une société de production et il a édité des disques de chants nazis. Mmh. D'accord ? Et cette personne absolument recommandable, a aussi trempé dans ce qu'il y avait de plus horrible dans la guerre d'Algérie. Ouais. Hein? Mmh. J'ai retrouvé un son, en fait, qui nous raconte, en fait, comment, en fait, il a participé à des tortures en Algérie.
Ok, on écoute.
Pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, dans la Casbah d'Alger, tout le monde savait que cet homme avait été un tortionnaire à Alger.
Le lieutenant Jean-Marie Le Pen a passé 3 mois à Alger, de fin décembre 1956 au 31 mars 1957, afin d'éradiquer le nationalisme. 3 mois durant lesquels il torturera des Algériens dans toute la ville.
Il est dans un régiment qui est considéré comme un régiment d'élite, le premier régiment étranger parachutiste, qui est composé essentiellement, comme son nom l'indique, d'étrangers, et notamment de milliers de Waffen-SS qui ont été incorporés dans la Légion en 1945.
Le jeune Algérien Mohamed Moulay retrouvera d'ailleurs un poignard des jeunesses hitlériennes gravé du nom de Jean-Marie Le Pen. Ce dernier l'avait perdu après avoir tué le père du jeune homme.
Il interroge ceux qui sont considérés comme suspects de lien avec la rébellion, comme on disait, sous la torture. Il pratique une torture qui est normée. Les témoins racontent tous que c'est l'électricité, ce qu'on appelait la gégène, c'est-à-dire les électrodes attachées sur les parties sensibles du corps avec des décharges électriques, et la torture à l'eau par simulation de noyade.
Dans son livre « Le Pen et la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli », l'historien a rassemblé des archives de la police d'Alger et une quinzaine de témoignages de victimes de Jean-Marie Le Pen.
Plusieurs témoins le décrivent s'asseyant sur leur ventre alors qu'on leur verse de l'eau dans la bouche par force, ou actionnant la gégène. Il y a même un de ses frères d'armes, un légionnaire hollandais qui, après la guerre, a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un s'acharner avec autant de passion en pratiquant la torture.
Le lieutenant Le Pen n'est alors pas seulement militaire, il est aussi député.
Par la suite, visiblement, il se lâche davantage et il se vante, par exemple, d'être député à l'Assemblée nationale. Il ironise en disant à une des victimes « Si tu veux te plaindre, tu viendras à l'Assemblée nationale, tu demanderas de députer Le Pen, etc. »
Mais certaines de ces victimes ne pourront plus jamais se plaindre.
Ahmed Moulay est torturé devant sa famille et décède sous la torture. Et son corps est ensuite criblé de balles pour faire croire à un règlement de compte entre Fellaghas.
Jean-Marie Le Pen quitte Alger le 31 mars 1957. Ces crimes de guerre, qui n'étaient pas que le fait de Le Pen, ont laissé un grand traumatisme au sein de la population algérienne.
Il fait ce que font tous les officiers de renseignement comme lui à Alger à ce moment-là. Moi, je travaille sur les disparitions forcées à Alger. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui encore, plusieurs générations après, c'est un trauma qui subsiste.
Ouais, c'était important de le rappeler aussi. Sans aucun doute, effectivement, ça a été un tortionnaire, Jean-Marie Le Pen.
Voilà, c'est quelqu'un qui a pratiqué la torture. Mm-hmm. Voilà.
Il s'en vante, hein. D'ailleurs, il y a certains extraits d'interviews où, en gros, il l'affiche, mais ostensiblement.
Oui, bien sûr. Et malgré ça, en fait, quand on interrogeait par exemple Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National, ouais. c'est-à-dire le Front National ouais. qui a juste changé de nom, sur Jean-Marie Le Pen est-il antisémite, avec tout ce qu'on a entendu ouais. dans le premier son, Bardella n'arrive pas à dire que c'est un antisémite.
Non, mais je pense qu'effectivement, alors, je ne vais pas dire que c'est simplement sa jeunesse qui fait que, n'ayant peut-être pas vécu ces années-là, en même temps, au sein du parti dans lequel il est, il ne peut pas ignorer ce genre de fait.
C'est
mais voilà, c'est assez simple, finalement, pour les jeunes générations, d'essayer de passer outre et d'effacer ce passé
qu'il laisse une empreinte.
Ouais, tout à fait.
Obligatoirement.
Ouais. Je te propose qu'on continue. Alors là, on va écouter ces deux extraits que j'ai trouvés dans... la semaine dernière, il y a eu un C'est ce soir consacré au décès de Jean-Marie Le Pen. Je te propose qu'on écoute dans un premier temps Philippe Collin, l'historien, qui va parler d'un certain discours de Jean-Marie Le Pen qui marque un tournant dans l'histoire de l'extrême droite en France.
Dans ce registre, il y a un discours de Jean-Marie Le Pen qu'on ne connaît pas, qu'on a oublié, mais qui est fondamental. Nous sommes le 23 septembre 2001.
J'écoute un podcast, là.
12 jours après le 11 septembre. C'est important, Jean-Marie Le Pen fait sa rentrée politique sur la pelouse de Reuilly à Vincennes. C'est la fête bleu-blanc-rouge. Mmh. J'invite tous les gens qui nous regardent ce soir à taper sur YouTube ce discours.
Ou à écouter le podcast.
Ou à écouter le podcast. Ouais. Mais le discours est assez fondamental. Pour la première fois, 12 jours après le 11 septembre, Jean-Marie Le Pen, dans un discours hallucinant, mélange immigration... insécurité, terrorisme, avec des phrases sur les Français musulmans hallucinantes. Hallucinantes, des phrases hallucinantes. Et je crois qu'il va mettre au cœur du jeu, en effet, de manière radioactive, l'identité et l'immigration. D'ailleurs, quelques mois plus tard, nous serons le 21 avril 2002, une campagne présidentielle fondée uniquement sur l'insécurité. Jacques Chirac, Lionel Jospin tombent dans le panneau. 21 avril 2002, il est au second tour. Arrivera Nicolas Sarkozy dans la foulée. Ce que je veux dire, c'est que certes, il a polarisé et rendu radioactif l'immigration, mais il y a une chose qui est intéressante. C'est que jusqu'alors, les débats politiques étaient fondés sur des débats socio-économiques. Quelle économie on voulait ? Quelle définition on donnait aux choix économiques qu'on voulait faire ?
Quel est le rôle de l'État ?
Exactement. Depuis ce 21 avril 2002, mais surtout depuis le 11 septembre peut-être, on est... passer dans des questions de société et d'identité. Quels Français sommes-nous ? Et c'est une obsession aujourd'hui. On a beau dire ce qu'on veut, on ne parle plus que de ça. Quels Français sommes-nous ? Qui est un bon Français ? Qui est un mauvais Français ? Qu'est-ce que ça veut dire être Français ? Et alors c'est pas
qui est
normal.
Intégré, qui n'est pas...
Qui n'est pas intégré ? Qui est un vrai Français ? Et c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Hongrie, c'est pareil en Italie. C'est un repli identitaire. Et je pense que Jean-Marie Le Pen est en France, en tout cas. En ça, il est très important, je crois, en tout cas.
Ouais. Moi, j'ai lu une autre intervention de Philippe Collin où on disait justement que Jean-Marie Le Pen, il avait complètement réhabilité l'extrême droite.
Exactement.
Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec Pétain et tout ça, la droite et l'extrême droite, c'était vraiment l'horreur absolue. Plus personne n'en voulait. Et que lui, en fait, il les a remis en selle.
Exactement. Et non seulement en France, mais même à l'échelle européenne. Et en fait, ce discours est... son arrivée au second tour de l'élection présidentielle en 2002, c'est vraiment, effectivement, selon Philippe Collin et d'autres historiens, vraiment un point de bascule. Alors après, il va être un peu, enfin quelques années plus tard, évincé du Rassemblement National, Front National devenu le Rassemblement National, on va en reparler après.
Mais il est évincé non pas pour ses idées, mais parce qu'il les dit tout fort.
Exactement, pour son côté provocateur et gênant.
Oui.
Et donc en 2002, il est au second tour, il est battu à plat de couture quand même, parce que Chirac fait 80%.
Ouais.
Par contre, en 2007, l'élection présidentielle suivante, c'est là que commence, notamment en France, la droitisation des idées politiques en France, et avec un rôle... malheureusement essentiel de Sarkozy, qui effectivement fait battre Jean-Marie Le Pen puisqu'il n'accepte pas au second tour, mais à quel prix ?
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait il en saisit un certain nombre d'idées et on part vraiment dans une droitisation du débat politique qui est phénoménale et qui ne fait que s'accentuer depuis.
Mais en fait, il ne fait pas battre Jean-Marie Le Pen, il fait Enfin, il ne fait pas battre ses idées.
Non, pas du tout.
Idées. Au contraire, il les fait triomphe.
C'est ça.
Il les légitime puisqu'il les reprend pour lui. C'est Sarkozy qui disait que l'Afrique n'était jamais entrée dans l'histoire.
Tu
vois, quand j'ai entendu le premier son de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races, tu vois, je me dis, bah tiens, c'est exactement ce que disait Sarkozy, en fait.
Et alors, oui, bien entendu, c'est précisément ce que je veux dire. On va y revenir dans la seconde partie de l'émission. On fait une petite pause musicale parce que là déjà c'est un peu chaud. On va essayer d'alléger un peu l'atmosphère et par contre après on va parler de ce que peut être l'extrême droite aujourd'hui en France et en Europe au travers du Rassemblement National. Marie Davidson,
yes.
La Québécoise que j'adore, mais toi aussi, je crois que tu l'aimes
bien.
D'un album à venir qui va s'appeler Sexy Clones.
Ok. On retourne avec Jean-Marie.
Super. Philippe Collin, il a fait un podcast en 7 épisodes qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Alors, pour ceux qui veulent se le fader, c'est passionnant, hein. c'est pas super réjouissant, mais c'est passionnant. Et du coup, un petit extrait sur l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que la fille a bien hérité des idées de son père? Ah non, pas douter, on écoute.
On a beaucoup entendu, rupture entre Marine Le Pen et son père, le RN n'est pas le FN, on s'est débarrassé de la flamme, Marine Le Pen n'est pas dans cette lignée de l'extrême droite française. Néanmoins, au-delà de tout ça, Cécile lui, au-delà même des mots qui ont changé, est-ce qu'on peut dire, presque de manière provocante, tel père, telle fille?
Dans une certaine mesure, oui. Et c'est une large mesure. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ou d'écouter les discours de Marine Le Pen à ses propres fêtes du 1er mai, où c'est du copier-coller de son père. Et ce sont des discours vraiment les plus idéologiques. Il s'adresse aux militants et il récite tous les archétypes mythologiques du discours lepéniste. Et d'autre part, le programme de Marine Le Pen sur l'immigration, la politique familiale, la nationalité, qui sont au cœur de l'idéologie de l'identité française, n'ont absolument pas changé. Marine Le Pen est contre le droit du sol. Marine Le Pen est donc pour le droit du sang et une définition biologique de la nationalité. Jusqu'à peu, elle était contre la binationalité. Elle est contre la naturalisation des gens qui ont vécu 5 ans, 10 ans, 20 ans en France. Tout ça nous suggère qu'elle garde cette même idée d'une identité nationale qui est pétrie des racines, qui n'est le fait que de ceux qui sont français, entre guillemets, de souche, et qui exclut à l'avance l'entrée de nouveaux individus qui adhéreraient au contrat social français.
Il faut raconter, Cécile, que l'histoire de France n'est que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une France d'avant qui était mieux. La France n'a cessé d'intégrer des gens qui arrivent de l'extérieur. Oui. C'est ça depuis des siècles et des siècles.
La France est une terre d'immigration qui est même sous la plume des écrivains d'extrême droite du 19e siècle les moins enclins à accepter cette immigration, qui est décrite comme une terre d'immigration. C'est le mélange de populations venues d'Europe, du Nord, du Sud, etc., au gré de multiples vagues d'immigration. Et l'intégration et la fusion de toutes ces communautés est ce qui fait la France d'aujourd'hui, absolument.
Récapitulons. Marine Le Pen s'inscrit dans les pas de son père. Ils ont l'un et l'autre une conception biologique de la communauté nationale. Mais ayez conscience qu'avant la fin du 19e siècle, être français ne signifiait pas grand-chose. Ce n'était pas une obsession comme aujourd'hui. C'est une construction. Je vais essayer de synthétiser. Après la défaite face à la Prusse en 1870, la Troisième République a accentué l'idée de la nation. Avec la Marseillaise, la devise républicaine et l'idéal démocratique. Car il fallait enraciner un nouveau régime politique et surtout récupérer l'Alsace-Moselle, la terre de France annexée par l'Allemagne.
Et pour l'Alsace-Lorraine, je vais tout même pas les mettre en tricolore. Mauve,
la couleur du deuil.
Or, en réaction aux valeurs républicaines instaurées à partir de 1870, le camp nationaliste a développé une conception biologique de la nation. Le sang contre le sol.
Vivons à la mort de la République.
Oui, quel camp !
En réalité, qu'est-ce qu'être français ? C'est un débat très récent dans l'histoire de France. À peine 150 ans. Imaginez que les grands-parents de Jean-Marie Le Pen, au 19e siècle, ne parlaient sans doute que le breton et se fichaient bien d'être français. Mais c'est une question qui a obsédé Jean-Marie Le Pen toute sa vie. L'idée d'un peuple homogène, menacé par des élites malveillantes. Un discours assumé par sa fille.
Voilà, je trouvais que c'était hyper important qu'on en arrive à ça. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience que ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen au travers du Front National et ce que poursuit sa fille au travers du RN, c'est qu'il y a quand même une cannibalisation de la définition de ce qu'est être français, quoi. Et ça, on l'entend pas assez. Aujourd'hui, de façon assez commune, on pense voilà, que être français, c'est ça a à voir avec la naissance, ça a à voir avec une certaine culture. Mais c'est des idées qui sont complètement outrancières, quoi. Tu restes interdit là, Ghislain.
Oui, parce qu'on est au cœur du problème, là.
Ouais.
Ouais, on est dans le cœur du problème.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils se sont réappropriés en fait, tout le drapeau, ne serait-ce que le drapeau.
Ouais. Et même s'il y a des... Et oui, voilà. Et alors, il y a des tentatives pour un peu sortir de ça, mais c'est, on est vraiment au cœur du problème.
Mm-hmm. Il n'y a que la devise qu'ils n'ont pas forcément repris. Pas liberté, encore. Égalité, ouais, fraternité, ouais, ça ne les concerne pas trop.
C'est peut-être plus difficile à récupérer. Et donc, pour finir, je voudrais qu'on entende d'autres hommes politiques. C'est la fin du podcast de Philippe Collin. Et je pense que c'est important. Et peut-être qu'on peut conclure là-dessus.
Ouais.
On va entendre successivement 3 hommes politiques plus ou moins... récent dans l'histoire de France, justement qui propose une autre idée de ce qu'est être français. On conclut là-dessus ?
On conclut là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour un truc plus rigolo.
Ouais, par exemple. Ciao.
Pour finir, il semble que Jean-Marie Le Pen ait confisqué l'idée nationale. Or, j'aimerais pour terminer vous faire entendre 3 figures politiques majeures du XXe siècle qui incarnent une autre idée du sentiment national. D'abord, Léon Blum, socialiste, juif et français.
Je suis un Français, car je suis un Français. Je suis un Français fier de son pays, fier de son histoire. Nourri autant du quiconque de sa tradition.
Ensuite, Charles de Gaulle, ennemi juré de Jean-Marie Le Pen. De Gaulle, chantre de la nation, et qui donnait en 1941 à Londres sa définition de la France et des Français.
Ce que nous sommes, il est extrêmement simple de donner la réponse. Nous sommes des Français de toute origine, de toute condition, de toute opinion qui ont décidé de se réunir pour mener la lutte pour leur pays. Tous l'ont fait volontairement, purement, simplement.
Enfin, les derniers mots à François Mitterrand. Un homme qui est passé par Vichy, pétainiste, décoré de la Francisque, une histoire française complexe. Mais écoutez bien ses derniers mots, alors qu'il est sur la fin de sa vie, des mots prononcés au Parlement européen le 17 janvier 1995. Et, comme d'habitude, je vous laisse juger.
Et je terminerai par quelques mots. Il se trouve que les hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la Première Guerre mondiale et que je fasse la Seconde. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune et parfois une haine contre l'ennemi de la veille. Je me souviens que dans une famille où l'on pratiquait des vertus, l'humanité, quelle bienveillance, tout de même, lorsqu'on parlait des Allemands, on en parlait avec animosité. Et je me suis rendu compte, lorsque j'étais prisonnier de guerre, j'ai rencontré des Allemands en Bade-Württemberg, dans une prison. Et les gens qui étaient là, les Allemands avec lesquels je parlais, je me suis aperçu qu'ils aimaient mieux la France que nous n'aimions l'Allemagne. Je dis cela sans vouloir accabler mon pays, qui n'est pas le plus nationaliste, loin de là, mais pour faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire, et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre.